Radio Caravane.
Radio Caravane.
Des saltos.
Des saltos.
Des saltos.
Au studio.
Radio Caravane. Des saltos au studio.
Salut à toutes et à tous, vous écoutez Radio Caravane, le média qui couvre l'actualité de la grainerie. Aujourd'hui dans cette émission, on vous propose un portrait de Marina qui travaille à la billetterie. Elle nous parlera de son parcours et de son travail. Nous avons également rencontré Véronique et Cécile de l'association Les Acolytes qui sont ancrées dans les lieux depuis maintenant de nombreuses années. Elles nous racontent comment elles ont vu évoluer le lieu. Mais tout de suite, rencontre avec la compagnie Devir et deux artistes brésiliens qui nous parlent de leur processus de création et de la condition des artistes actuellement au Brésil.
Bonjour.
Bonjour.
Présentez-vous s'il vous plaît et d'où venez-vous?
I'm João Lucas. I'm from Recife, Pernambuco. And it's that.
Je m'appelle Vitor Lima. Je viens de Recife, Pernambuco, Brésil.
Et quelle discipline artistique pratiquez-vous?
Moi, j'ai fait un peu de trapèze et on travaille aussi en trapèze en duo, voilà.
I'm doing rope, cordelis. And trapeze double with him, with Victor.
Pouvez-vous nous parler de votre parcours?
Notre parcours, je pense que c'est très spécifique si on pense au parcours français, par exemple. On faisait du cirque à Recife et on voulait vraiment faire un spectacle. Alors on a commencé à travailler dans l'idée de notre projet et on a eu la chance que Alban, le professeur de Lido, il est allé à Recife pour donner des ateliers. Alors, on a commencé un peu à travailler dans notre projet ensemble, moi et Juan. Et alors, on s'est rencontrés pendant 4 ans. Chacun, Alban venait à Recife. Alors, aux premières années, c'était seulement Alban. Après, c'était Alban et Jean-Michel Guy. Et justement, dans cette seconde expérience, on a parlé, discuté beaucoup avec Jean-Michel Guy à propos de notre projet. Et on lui est invité pour participer, pour être le metteur en scène, parce que il nous a aidés avec beaucoup des idées pour la dramaturgie et tout. Mais on savait pas comment on pouvait vraiment faire parce qu'il était en France et nous à Recife. Et aussi, on a participé de Circus Incubator, qui c'est un projet de 4 pays. C'est Brésil, Canada, Suède et France. Il y a d'autres pays aussi qui faisaient partie, mais les artistes, c'était de ces 4 pays. On est parti à un autre endroit au Brésil, à Londrina, pour avoir plus d'expérience. Et après, on a fait l'École nationale des cirques, qu'on vient de finir. On a fini en juin cette année. Et voilà. Et à ce moment, on a eu la subvention pour venir faire une résidence ici à la Grainerie, à ce moment. Et on a été sélectionné aussi comme pour un projet à la centrale del cirque. Alors, on vient de faire 3 semaines de résidence là-bas aussi pour de compagnies émergentes d'Amérique latine. Et voilà, on vient de commencer à vraiment à travailler dans notre projet qu'on pense depuis 5 ans.
Quelle est l'histoire de votre compagnie, Devir, et pourquoi ce nom?
Alors, l'histoire, c'était justement, moi et Jean, on avait envie de travailler dans le cadre des cirques contemporains, et à Recife, il n'y a pas beaucoup. Il y a des cirques sociaux et plein de familles traditionnelles des cirques. Alors, justement, dans la première rencontre avec Alban, on était très touchés pour sa méthode et tout, et on a vu qu'on voulait travailler avec ça, et on a décidé de commencer à travailler ensemble. Et à propos du nom Devir, ça veut dire que c'est un processus et un continuous des changements. C'est une chose qui ne s'arrête jamais, c'est toujours un mouvement, et c'est aussi un terme utilisé par Nietzsche aussi. Moi, quand je pense à Devir en portugais, je pense aussi en français à devenir. C'est quelque chose qui se transforme tout le temps, voilà. C'est comme on se sent un peu comme ça. On essaye toujours d'être en mouvement, de développer, d'être ouvert pour changer.
Pourquoi ce nom Ubuntu pour vos spectacles?
Ce titre, c'est un titre provisoire, mais on a choisi parce qu'il parle un peu de ce qu'on... C'est une des idées de notre spectacle. Ubuntu, c'est un concept africain qui n'a pas une localisation exacte. C'est comme une idée très forte de sororité, c'est ça, de, et que je suis, c'est que je suis parce que nous sommes. C'est un peu ça que Ubuntu veut dire, et c'est justement que c'est à partir de des échanges humains qu'on peut changer la notre réalité. Voilà, c'est pour ça que c'est un concept. C'est très important pour nous, pour quand on pense au projet. Mais à ce moment, par exemple, on voit que pour les titres de projet, ça ne sera pas le, les noms, mais comme mon idée, c'est hyper fort pour nous.
Pour vous, qu'est-ce que c'est la masculinité?
This subject is a bit difficult to explain, to say about it, because it's, for me, it's a lot of things. But in this project, we tried just to discuss a bit of it. What is it, masculinity? Is it present only in men, in women also, in everybody? And mainly to discuss the patterns, the
standards,
yeah. The standards of masculinity there is around the world. That's a bit different, but we know that there is real strong standards that are being supported by everyone. As a masculine man, you should be really strong. You don't feel anything. These real strong stereotypes that are imposed to men. And we want to discuss how every man suffers with it, because it's not only applied, that's not only applied for, is not only bad for homosexuals or men that are effeminated, not for men who are really inside these standards. They have a lot of things to be fit, to a lot of characteristics to correspond in these standards. So I think these standards maybe today, my opinion is that we don't need it anymore, and maybe with a time we can discuss in that through art and to every kind of work. It's my intention to discuss it and to get free of it.
Et dans les projets, on pense pas à imposer notre idée de questionner la masculinité. Pour nous, c'est seulement important de, nous sommes deux hommes sur scène, et comment on peut travailler à partir de plusieurs stimulus, non, je sais pas, à partir de plusieurs schémas, et comment notre relation sera affectée par les faits que nous sommes des hommes. Voilà, et pour nous, c'est très important de, qu'on ne soit pas, on dit pas, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas dans un cadre pédagogique qu'on veut dire, comme Jean vient de dire, on pense que parfois tous les hommes sont affectés par cette idée de masculinité, mais peut-être, probablement, il y a des hommes qui pensent que non, et ça va aussi. Alors, on travaille toujours à partir de notre expérience. Et ça sera des expériences partagées. C'est à partir de nous, à partir de deux hommes qui essayent de travailler ensemble, de avoir des relations. C'est à partir de ça qu'on a commencé à travailler. C'est vraiment à partir de notre relation. Et aussi une chose que c'est très très intéressant pour nous, c'est que normalement, si par exemple il y a un rapport très fort entre deux hommes en scène, au moins au Brésil, dans les discussions, normalement, les gens pensent toujours à un couple. Et ça, c'est pas nécessairement un problème, mais ça, à mon avis, montre aussi la fragilité de la masculinité. Et je reviens dans les sujets de l'empathie, parce que pour nous, l'intimité, l'amitié, c'est très important aussi. Et des fois, c'est dur de fuir de l'idée des couples si on veut être proche, par exemple, partager, être complice. Je ne sais pas comment on dit.
Complice.
Complice, voilà.
I just want to say, when I talk that I believe we don't need it anymore, these standards, Also, I think that maybe through all the story of humanity, we needed it because it just happened, for that. And I think that today maybe we don't need it anymore. It's just that.
That we can change.
Yeah, that we can change. We can change it.
Sur scène, pourquoi vos personnages se sentent mal à l'aise avec leur masculinité?
C'est dur à répondre, mais quand on a écrit à propos de ça, c'est justement de ces poids et de cette responsabilité de être masculin. Et qu'est-ce que ça veut dire être masculin ou être un homme? Il y a un poids sur les dos dans le sens que être un homme, c'est ça. Si on n'est pas comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un sens différent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On essaye d'être dans le standard ou on peut être ce qu'on veut, c'est quoi? Et c'est de mal à l'aise à partir de ces sens, de fuir un peu de standard.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le contexte de la société brésilienne aujourd'hui et du coup ce rapport de la masculinité qui est peut-être remis en cause?
Oui, la situation en ce moment au Brésil, c'est très délicate. À notre avis, c'est terrible. Et en même temps, pour nous, c'est très important de pouvoir parler à partir de là, de la masculinité et de ce que ça veut dire être un homme, parce que les standards à ce moment sont, à mon avis, encore pires et les idées sont un peu à l'envers, à mon avis, au Brésil, avec les présidents et avec aussi la religion très forte, avec beaucoup de conservadorisme. Dans les contextes du Brésil à ces moments, pour moi, c'est encore plus important de continuer de faire ces projets, pouvoir partager notre expérience dans les contextes du Brésil et aussi dehors du Brésil pour pouvoir aussi... Je pense qu'à ces moments, notre idée, justement, de masculinité et la masculinité, on appelle au Brésil, je ne sais pas si en français ça fait le sens, mais toxique. Et... Je pense que les présidents, c'est un très bon exemple de la toxicité, de la masculinité, de tout ce qu'ils parlent, que c'est n'importe quoi.
Je reviens sur ce qui se passe au Brésil en ce moment. Est-ce que ça impacte aussi le processus de création du milieu circassien en général?
Pour les arts, en général, à ces moments, au Brésil, il y a beaucoup de... Ça commence à avoir beaucoup de censure, beaucoup de... théâtre et beaucoup d'institutions publiques qui étaient ouvertes pour les présentations de théâtre, danse, cirque, commencent à avoir des censures que les projets doivent d'une certaine façon démontrer leur vision politique avant de présenter. Ça commence à être clair que c'est des censures vraiment et alors ça, c'est sûr que à ce moment, on se demande comment sera notre projet pour la continuation, pour avoir des subventions et aussi pour pouvoir présenter. On a peur des fois de comment on va faire la suite du projet, mais en même temps, nous sommes des artistes indépendants et il faut résister aussi. Alors, normalement, les cirques, et ça, c'est drôle à parler parce que normalement, les cirques continuent à avoir des subventions parce que en général, les gens pensent qu'à partir du cirque, ce n'est pas possible de faire de intervention politique. Et non. Voilà. Et notre projet, c'est aussi une occasion de pouvoir parler de ses consens et de la situation aussi à ces moments, à partir d'un spectacle de cirque, à partir de la technique circassienne aussi. J'espère que la situation va améliorer, mais à ces moments, ça devient de pire en pire. Depuis qu'on est arrivé en Europe, par exemple, beaucoup de choses ont changé. Et c'est vraiment affreux pour penser être un artiste au Brésil. Mais ces moments, c'est aussi les moments de résister, de penser d'autres façons, de continuer à travailler, de résister à une situation absurde, les cadres politiques.
Yeah, we think the scenery in Brazil is really sad at this moment. We're watching a scenery that a lot of artists and a lot of professionals that work in the culture industry, they are leaving Brazil because of the situation, coming to Europe or other countries in the world because the subventions are getting really fear and fear. It's been more difficult. And for me as a young artist, I never thought that for to subject projects that talk about gender and talk about social issues and stuff, we have to mask it to not be censored for the subventions and to submit the enterprises and the programs from the government that give the artists subventions. Since we came here in Europe, a lot of things have happened, and we have watched some companies that are really prestigiated in Brazil that are being censored. So it's not something of a question of opinion. It's really happening. And that's the situation in there. We have to, it's like Vitor said, it's a resistance to do art in Brazil. Today is being a resistance attitude, a resistance act. And it's that. Let's go.
Ubuntu est une création work in progress. Et comment envisagez-vous la suite de votre spectacle?
Alors pour la suite, à ce moment, on est vraiment dedans les processus et c'est dur à penser au futur. Mais on sait qu'on a beaucoup de travail à faire. Notre idée, c'est de faire la première l'année prochaine, probablement à la fin d'année, je sais pas, après septembre. Et c'est ça, on essaye aussi de comprendre comment on va continuer pour travailler avec Jean-Michel Guy, s'il va aller au Brésil, la Recife, si on revient ici, comment on fait, et toutes ces démarches, et on va continuer les processus de recherche, et on va commencer les processus de création pour faire les montages à la fin, et, mais on sait pas totalement comment on va faire, mais on sait qu'on va le faire.
Comment on peut vous suivre dans les réseaux sociaux et vos actualités?
Normalement, on utilise les Instagram. Normalement, c'est Cia, C-I-A, Devir, D-E-V-I-R. Et voilà, normalement, on essaie de partager un peu ce qu'on fait, où on est, et aussi les processus de notre création.
Merci beaucoup.
Merci. Merci.
On écoute Marina qui travaille à la billetterie à la Grainerie pour nous parler de son travail.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots?
Ben moi c'est Marina, je travaille à la Grainerie depuis 3 ans et demi. Je suis en charge de l'accueil de la billetterie. Je viens d'Espagne en fait, ça fait 7 ans que je suis en France. J'ai des études en communication que j'ai repris ici à Toulouse et après avoir fini mes études, j'ai trouvé mon travail à la Grainerie. Mon travail à la Grainerie, donc, comme je disais. Donc, c'est assez large. Dans l'accueil, on va voir l'accueil du public, sauf que le public à la Grainerie, c'est beaucoup de personnes différentes. Ça va être les artistes qui viennent s'entraîner en salle d'entraînement. Donc, on a une salle d'entraînement qui est ouverte tous les jours et pour laquelle on fait les contrôles d'accès. On a aussi le public qui va venir acheter des places. On a les gens qui vont venir au bâtiment parce qu'ils viennent au resto, par exemple. Il y a aussi les gens qui travaillent ici sur des bureaux de compagnie ou des bureaux de production. Et il y a aussi les artistes qui viennent en création, qu'on accueille aussi. Et notamment, on les accueille dans les hébergements qu'on a à la Grainerie. Donc voilà, on fait toute la gestion des hébergements. Et moi, je coordonne aussi la billetterie, parce qu'on a toute une session de spectacle à la Grainerie.
Ok. Quelle serait une journée type à l'accueil de la Grainerie?
Alors, c'est très difficile de parler d'une journée type à l'accueil à la Grainerie, parce qu'en fait, tu es tout le temps interpellé pour des choses différentes. Donc, si, il y a quand même quelque chose, c'est qu'on ouvre à 10h l'accueil, on ouvre la salle d'entraînement, et là, bon, ben, il y a les artistes qui commencent à arriver. Nanana. Du coup, ben, ce que je disais, c'est l'accueil, il y a beaucoup cette partie des contrôles d'accès à la salle d'entraînement. Et puis, il y a l'accueil téléphonique qui prend beaucoup de temps aussi, surtout en période de festival, parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent pour réserver des spectacles. Après, voilà, c'est 18h, c'est la fermeture de la salle d'entraînement. Donc vraiment, on est basé sur les horaires de la salle d'entraînement pour la journée type.
Tu ne tombes pas trop malade à côté courant d'air?
Non, heureusement. C'est tout un problème à l'accueil de la Grainerie. On a essayé de faire en sorte que ce qu'on appelle la guitoune, qui est la petite caravane d'accueil à la Grainerie, soit mieux isolée. Donc on a installé une moquette, un plancher, on a mis un chauffage... voilà, des choses comme ça. Puis on laisse les fenêtres fermées en hiver quand même. Donc voilà, on fermait toutes les portes, on fermait les rideaux, ce qui fait que c'est pas très agréable, mais bon, au moins on tombait pas malade. Mais ce qui est bien, c'est que là, il y a une discussion avec Toulouse Métropole pour justement construire un vrai accueil à la Grainerie, ce qui serait quand même très confortable pour les gens qui travaillent et même pour les publics, juste d'avoir un vrai lieu d'accueil, voilà, quand on a des accueils des spectacles ou d'autres types, en tout cas.
Quelles compétences particulières demande votre travail ?
Pour le travail accueil billetterie, je dirais qu'il faut être très organisé, il faut être capable de retenir beaucoup d'informations, il faut être rigoureux. C'est très, très, très pratique de parler plusieurs langues, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'artistes étrangers. Voilà, il faut se débrouiller avec quand même un peu l'informatique, parce qu'on est sur un logiciel qui n'est pas simple.
Pratiquez-vous le cirque, vous aussi ?
Non, je n'ai jamais fait de cirque. Je suis un peu clown amateur. Mais non, je n'ai vraiment jamais fait. Et puis, on m'a proposé plusieurs fois de tester des choses en salle d'entraînement, mais c'est vrai que je ne vois jamais les moments de les faire.
Merci Marina d'être venue vous présenter.
Avec plaisir, merci à vous.
Voici maintenant Véronique et Cécile de l'association Les Acolytes pour nous parler de leur structure et aussi de l'évolution de la Grainerie depuis de nombreuses années.
Alors bonjour. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Oui, donc je m'appelle Véronique Dubarry, je suis directrice de production et co-directrice de l'association Acolytes.
Cécile Bélan, je travaille pour l'association Acolytes qui est basée à la Grainerie depuis une vingtaine d'années maintenant.
Vous pouvez nous en dire plus sur votre association ?
Oui, Acolytes, c'est une association et c'est un bureau de production et de diffusion de compagnies d'artistes de cirque. On les accompagne sur le développement de leurs projets, de leur idée à la réalisation du spectacle jusqu'à la fin des représentations, tout le long de la vie d'un spectacle et d'une compagnie.
Quelle est votre fonction au sein de l'association ?
Alors moi, je gère la partie diffusion des compagnies, c'est-à-dire l'organisation des tournées, la vente des spectacles. Et aussi, quand la compagnie est en création, ben là, je recherche des financements pour qu'ils puissent créer dans des bonnes conditions. Je recherche des espaces de travail, on appelle ça des résidences. On cherche des lieux de résidence pour que les artistes puissent travailler à leur spectacle. Et on appelle ça chargé de production et chargé de diffusion.
Voilà le bureau. J'ai un âge certain, une expérience professionnelle aussi très longue dans la culture qui doit avoisiner les 30 ans. Je suis passée dans pas mal d'univers, notamment j'ai fait 10 ans en marionnette, au moins, voire un peu plus ailleurs. J'ai travaillé pour de la danse, un petit peu pour du théâtre. Et puis, à la suite d'une formation à la Sorbonne en 2006-2007, pour un master dans le projet culturel dans l'espace public, je me suis retrouvée chez Acolytes.
Dites-nous en plus sur votre association.
Alors, Acolytes, c'est une association qui a 20 ans, qui est issue de la Grainerie au départ. La Grainerie, c'était Jo Martinez à l'époque, et puis Isabelle Gorski, qui est aujourd'hui n'est plus, qui avait monté une sorte de service pour accompagner les artistes qui sortaient du Lido. Cette association est devenue un bureau de production et diffusion et administration de compagnies de cirque. Alors, longtemps avec des compagnies qu'on va qualifier d'émergentes, c'est-à-dire des jeunes sortants ou du Lido, voilà, mais pas que. Acolytes a longtemps accompagné par exemple Acrostiche, qui est une très vieille compagnie dans le bureau maintenant sur vous, Yeto, Titravers, j'en passe, il y a des listes comme ça. La finalité de l'association, c'est diffuser les spectacles de compagnies. Ça, c'est la première chose. Diffuser, ça veut dire aussi produire, quand on parle de produire, c'est accompagner des compagnies dans leur création de spectacles. Produire, ça veut dire aller chercher de l'argent, des partenaires pour que la création ait lieu et le spectacle ait lieu. Et on va dire en troisième volet, ben, l'administration. Ne pas confondre administrateur et administration. C'est-à-dire qu'on peut accompagner des compagnies dans le, tout ce qui est le social, les payes, etc., la comptabilité, mais en même temps, les départs en tournée, les retours en tournée, c'est-à-dire il va y avoir des factures, des virements à faire, enfin, etc. C'est vraiment, je synthétise. Mais le cœur de métier, c'est vraiment la diffusion. Et aujourd'hui, Acolyte a 8 ou 9 compagnies, dont certaines sont accompagnées. Administration, production, diffusion. D'autres ne sont accompagnés qu'en production diffusion. Et pour certaines, depuis cette année, nous sommes en mission. C'est-à-dire que nous définissons un volant financier annuel qui va nous être versé pour un accompagnement à chercher du spectacle. Sinon, nous fonctionnons au pourcentage de ce que nous trouvons comme date. Alors les pourcentages, ils vont de 10 à 20 en fonction d'un tas de critères, on ne va pas y rentrer là-dedans. Et ce qui veut dire qu'on a plutôt intérêt de ne pas trop s'endormir sur nos lauriers pour rentrer, de quoi faire salarier l'équipe. Parce que l'équipe, c'est bon, Cécile Bélan qui est l'historique, Vanina Montiel qui s'occupe de 2 ou 3 compagnies, Estelle Saint-Agne qui, pareil, s'occupe de 2 ou 3 compagnies. Moi au poste de CODIR, quelqu'un en social, pour le social et la paye, et une comptable.
Vous pouvez nous parler de votre fonction au sein de l'association?
Alors, ma fonction elle est multiple. Elle est aujourd'hui une fonction de direction de production, ce qui veut dire que je suis, on pourrait dire aussi directrice administrative et financière. C'est-à-dire que c'est quand même moi qui suis tous les budgets, beaucoup de budgets, moi, qui valide des décisions pour toutes les compagnies, alors avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de facilité. Du coup, ça m'amène à être aussi dans la stratégie de développement des compagnies, parce que si je valide ou j'invalide, eh ben, je peux éteindre des idées qui étaient parties ou pas. Donc ça, c'est pour les compagnies. Et ensuite, en tant que co-directrice d'Acolyte, c'est la même chose. On a une stratégie de développement que l'on discute beaucoup avec Cécile et qu'on tente d'appliquer dans notre quotidien et puis dans le développement, dans la visibilité, dans la communication, pour faire connaître Acolyte. Voilà.
Vous pouvez nous en dire sur votre journée type?
Alors, ma journée type, c'est beaucoup de bureaux. Avec des horaires de bureau. Dans la journée, je passe beaucoup de temps au téléphone, à faire des mails, dans plusieurs langues, puisque les compagnies jouent à l'international. Donc ça, c'est une partie qui est agréable aussi de pouvoir manier plusieurs langues. Ça, c'est ma journée type au bureau. Et parfois, j'accompagne les compagnies en tournée, lorsqu'elles jouent. Et là, c'est une autre journée type. Ça commence un peu plus tard et ça finit plus tard aussi, parce que ça joue souvent le soir.
Du coup, pouvez-vous nous dire quelles sont les compétences nécessaires pour votre poste?
Alors, pour la partie diffusion, c'est un métier qui peut s'apprendre sur le tas. Pendant longtemps, il n'y a pas eu de formation. C'est quelque chose qui s'apprenait au fur et à mesure. On apprend en faisant, aux côtés de personnes qui le font. Moi, c'est comme ça que je me suis formée, par transmission. Maintenant, il y a de plus en plus des petites formations, des modules de formation pour la diffusion. Par contre, pour le métier autour de la production, là, il y a des formations qui existent, c'est beaucoup plus conceptualisé, la production, que la diffusion. Donc, il y a des formations universitaires, plus ou moins longues, qui existent et qui permettent d'avoir un peu la théorie autour de, ben voilà, des recherches de financement. La partie qui n'est pas enseignée, souvent, c'est la relation aux artistes. Il y a des parties un peu invisibles du travail où on apprend en faisant. Il y a tout un savoir-être aussi, un positionnement par rapport aux artistes, un positionnement par rapport au lieu qui achète les spectacles. Et ça, c'est pas vraiment enseigné.
Merci à vous.
Ben, avec plaisir. Merci à vous.
Radio Caravane, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve prochainement pour de nouvelles émissions et des reportages. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et notre site internet radiocaravane.net où vous retrouverez plein de bonus ainsi que nos interviews complètes pour en savoir plus sur les artistes, les compagnies et bien sûr la vie de la grainerie. À très bientôt.
Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle.
Proposé par la grainerie et les associations Média Commun et Iva Sound Studio,
un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web média.
Ils couvrent la programmation de la grainerie en réalisant des émissions diffusées sur plus de 15 radios partenaires. Retrouvez nos interviews caravane.net.